adamique et la nature divine créée en Jésus-Christ. Et elle cohabite là. Mais est-ce que c'est bien que ça cohabite, en fait? En fait, non. Il y en a une qui doit disparaître pour faire place à l'autre. Et tous les jours, nous devrions prendre la victoire sur cette. Alors, comment est-ce qu'on peut alimenter la. Comment c'est la vieille nature? La vieille nature, elle est là. De toute manière, il n'y a pas d'effort à faire. Pour alimenter la vieille nature, il ne faut même pas faire d'effort. Ça vient tout seul. C'est normal, c'est naturel. Et donc, la nouvelle nature, alors là, c'est autre chose. C'est tout un travail spirituel, un travail de l'esprit dans nos vies, et aussi une discipline de nos cœurs, une décision intentionnelle de vivre pour Dieu chaque jour, de vivre selon Dieu. Et c'est ce que nous allons un peu découvrir ici avec cette parole. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit Saint. Déjà avoir reçu l'Esprit Saint. Hein, première chose, avoir rencontré le Seigneur dans notre vie. L'Esprit étant celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Eh bien, Dieu nous demande de marcher selon cet Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et la chair, nous allons la définir. Nous allons voir un petit peu, nous en avons déjà lu les versets qui en parlent. La question que chacun peut se poser, c'est quelle place tient la personne du Saint-Esprit en moi? Qu'est-ce que je donne comme place au Saint-Esprit dans ma vie? Ai-je laissé au Saint-Esprit les rênes de ma vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui contrôle ma vie? Ou est-ce que c'est toujours bien moi qui suis assis sur le trône de ma vie? Qui gouverne ma vie, la chair ou l'esprit de sainteté? Est-ce que c'est l'esprit de sainteté qui dirige ou la chair? Marcher selon l'esprit, c'est en quelques mots laisser le Saint-Esprit diriger notre vie et nous n'obéirons plus aux désirs de notre propre nature. Alors, deux choses à ne pas oublier, à ne pas sous-estimer. C'est que Dieu a condamné le péché dans la chair en nous donnant Jésus-Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair. Si le péché n'avait pas une telle horreur devant Dieu, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils pour qu'il meure à notre place. Le but de la venue de Jésus, ce n'est pas simplement donner un exemple de droiture, de justice, etc. Le but ultime, c'est de prendre le péché d'humanité sur sa vie, sur lui. Parce que le péché est une offense terrible. Et donc, nous ne pouvons pas croire que nous pouvons vivre une vie en péchant, et c'est pas grave, Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, on voit le Dieu bonté qui accepte tout ce que nous pouvons réaliser dans notre vie, tous nos ratés, etc. Il veut nous sanctifier, il veut nous. Nous perfectionner en lui. Il veut transformer nos vies, il veut transformer notre caractère, il veut que notre caractère soit semblable au sien, nos sentiments soient semblables aux siens, il veut que nous menions une vie de sainteté. C'est important de réaliser. Et donc, Dieu a condamné le péché dans la chair en offrant Jésus-Christ, hein, qui a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en Dieu, en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. Et c'est aussi le but que nous marchons plus sur la chair, mais sur l'esprit. Alors, Dieu nous a donné son Esprit Saint, deuxième chose, parce que par nous-mêmes, il nous est impossible de marcher dans la sainteté. Par nous-mêmes, ce serait une fable, hein, de demander aux chrétiens de marcher de manière cohérente, de manière correcte par rapport à la parole de Dieu, de vivre dans la sainteté si nous n'avons pas l'esprit. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Impossible. On n'aurait que la vieille nature Et on demande aux gens une vieille nature, d'être correct, de marcher dans la justice, de marcher dans la droiture, de marcher dans la sainteté, de marcher selon Dieu, etc. C'est demander l'impossible. On ne peut pas demander l'impossible. Par contre, si en recevant Jésus, vous recevez aussi l'Esprit, c'est cela. Et donc, par l'Esprit Saint, il est possible de marcher selon Dieu. Pas par nous, par nos efforts, par notre éducation, parce que nous pensons être bien, parce que nous savons ce qui est bien. Nous savons ce qui est bien. Quelquefois, c'est parce qu'il y a ce que nous savons qui est bien, qui est réalisé, pas autre chose. À cause de cette vie nature, bien sûr. L'Esprit de Christ nous affranchit de la loi du péché, et aujourd'hui, Dieu nous donne la force, la puissance, l'autorité de marcher non donc plus selon les penchants de notre ancienne nature, mais revêtus de la nature de Christ. Si nous sommes revêtus de la nature de Christ, alors nous pouvons marcher en sainteté de lui. Ça, c'est pas possible autrement. Donc, il faut être revêtu de la nature de Christ. Et Paul dit aux chrétiens de Rome, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Si nous croyons être des enfants de Dieu, alors nous devons absolument savoir que nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Et le péché n'a pas pouvoir sur nous parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sous la grâce. C'est pas sous la loi. Sous la loi, nous ne pouvons pas être pleinement vainqueur du péché. C'est la grâce qui nous donne d'être vainqueur du péché. Dieu a tout accompli. C'est le Seigneur en nous qui fait le travail. Ce que nous faisons, c'est un verset qui dit, hein, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait pour nous et en nous. Alors, quand nous faisons le bien, nous apportons une bénédiction autour de nous, nous sommes cohérents avec la parole de Dieu, c'est pas nous qui produisons ça. C'est l'œuvre de l'Esprit. Bon, il y a une décision. C'est vrai que je décide de marcher pour Dieu, mais l'Esprit me relaie et me donne la victoire. Parce que je marche sous la grâce de Dieu. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez dire. L'ancienne nature, comme on le dit, a des désirs égoïstes et se rebiffe contre l'esprit. La chair est opposée à l'esprit. Ça, il faut le savoir. Il y a une opposition. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Je crois que c'est très important de réaliser ça. Alors, la chair, on va essayer de la définir un peu. La chair, c'est ce qui anime l'homme non régénéré d'abord, hein. L'homme non régénéré, la nature déchue, l'homme naturel. On voit dans le Corinthiens chapitre 2, verset 14, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel, quand on est encore un être naturel, on n'accepte pas les choses qui viennent de Dieu. C'est une folie pour nous. Hein, quand on n'est pas encore au Christ. Mais quand on est au Christ, alors il y a une révélation qui nous est donnée par l'Esprit. Et là, il nous est donné de pouvoir marcher par l'Esprit, de vaincre la chair. Romains 6, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Là, je vais dire que c'est le verset peut-être le plus important, un des plus importants par rapport à cette vieille nature. C'est ce vieil homme qui est en nous, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix spirituellement? On le voit là. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en fait, quand Jésus est mort à la croix, il est mort non pas avec nos péchés seulement, mais plus que ça, il est mort avec notre vieil homme, celui par lequel le péché a abondé dans notre vie. Là où le péché a abondé, la grâce est surabondée. Mais Jésus a pris notre vieil homme, cette vieille nature qui nous fait pécher, qui produit le péché dans nos vies. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés et on continue à vivre une vie de péché. Il est mort avec notre vieil homme qui produit, qui est la source de la production du péché dans nos vies. Il est mort avec le vieil homme, avec le vieux Pascal. Ça, c'est extra de soupirer les gens. Il est mort avec ce qui produit la faute dans ma vie, faute dans mes pensées, dans les paroles, dans les actions. Donc, et comment est-ce que je peux avoir la victoire? Ça, c'est, je vais dire, pas seulement la théorie, c'est vraiment ce qui s'est réalisé en Jésus, mais comment est-ce que je peux le vivre au quotidien? C'est verset 11 qui nous apprend. Verset 11, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En fait, Jésus est mort avec mon vieil homme, et moi, je dois me considérer, minute après minute, comme étant mort au péché. Je dois me considérer comme étant mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça c'est la source de la victoire, c'est de réaliser que ma vieille nature qui me porte au péché, elle a été crucifiée, et donc je dois continuellement me considérer comme étant mort par rapport au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une réalité, mais au niveau de mon mental, ça doit être très important de recevoir cette vérité où Jésus a accompli, parce que la vérité nous libère, hein, vous savez ça. Et de réaliser que cette vieille homme a été crucifié, de me considérer comme étant crucifié, va m'aider à sortir de tous les pièges de l'adversaire, pièges de la chair. Et verset 17 et 18 du même chapitre 6 de Romains, mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché, parce que le péché nous rend esclaves. En tant qu'homme naturel, nous étions des esclaves de la vieille nature. Le péché nous piégeait. Bon, il y a le péché grossier, le péché plus discret. Mais de toute manière, nous étions piégés par le péché. Et il nous tenait, nous étions tenus. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez confié. Vous avez été confié, pardon. Vous avez obéi de tout votre cœur. La foi est une obéissance. Quand je viens à Jésus-Christ par la foi, j'obéis. C'est un acte d'obéissance. Et cet acte d'obéissance de la foi nous permet de sortir de l'esclavage. Et donc d'être libéré. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Une fois libéré du péché, une fois que je suis libéré du péché, je deviens esclave de la justice. Ça veut dire, je suis libre d'obéir à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et je deviens esclave. Si je n'obéis pas à Dieu, je vais retourner dans le péché. Donc je suis quelque part esclave de la justice pour rester libre. Esclave de la justice pour rester libre. Éphésiens 4, 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Donc, Dieu nous parle, l'apôtre Paul nous parle de nous débarrasser du vieil homme. Nous dévêtir, tirer la vie du vieil homme et revêtir la nouvelle nature. Il y a le fait de se déshabiller de ce manteau de la vieille nature pour revêtir un habit de sainteté, l'habit de la nouvelle nature. Colossiens 3, verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Voilà, donc, le vieil homme n'a rien de bon en soi. Absolument rien de bon. il n'est pas capable d'amélioration. Il est profondément mauvais, absolument mauvais. Il faut en être convaincu. Si je ne suis pas convaincu que mon vieil homme est absolument mauvais, je vais rester comme ça. Il faut être convaincu que je suis vraiment ce vieil homme, cette vieille nature. Ma vie me fait du tort et ne plaît pas à Dieu, ne saurait plaire à Dieu et ne peut être amélioré. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que de faire mourir ce vieil homme. De réaliser que, à la croix, c'est vrai que ce vieil homme a été crucifié, de me considérer comme étant crucifié avec Christ, hein, et de considérer que je suis vivant avec Dieu en Jésus. Jérémie, le prophète, avait constaté cela aussi. Le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître? Notre cœur est vraiment tortueux. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre cœur. Nous avons besoin d'une nouvelle nature pour voir les choses comme Dieu le voit. Dans Romains 7, à partir du verset 18, on voit un petit peu la. L'opposition entre les deux natures. C'est très intéressant. Donc, Romains 7, verset 18. En effet, je sais le bien, que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Donc, je sais ce qui est bien, pas besoin qu'on vienne me chanter, de me le dire. Je le sais, mais je n'arrive pas à l'accomplir. C'est un peu ça que Paul dit. Je sais, mais ce n'est pas suffisant parce que j'arrive pas. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Heureusement, il y a Dieu. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Je comprends ce qui est mal, ce qui n'est pas bien, mais je n'arrive pas à le faire. Avec la nature humaine, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de la nouvelle nature et de l'esprit qui agit au travers de la nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus. Il y a donc nécessité pour tous les hommes de naître de nouveau par l'œuvre du Saint-Esprit. Si on n'est pas né par l'œuvre du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on pourrait obéir à cette parole? C'est impossible, c'est de la folie pour nous, ça ne ressemble à rien. Donc il faut naître de nouveau, première étape, pour aussi revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, pour être rendu participant de la nature divine. Dieu veut que nous participions à la nature divine. Il nous donne cette nature de Jésus-Christ, la nouvelle. À nous de nous en revêtir. Éphésiens 4, verset 20 aussi. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme. Correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Extraordinaire. Donc, d'abord mourir. Se débarrasser du vieillant, ensuite se revêtir de la nouvelle nature et se laisser renouveler par l'esprit, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Soyez à vous. Alors, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ça c'est évident. Et l'esprit a des désirs totalement différents de la chair. Alors, une nature est mauvaise, l'autre est bonne. L'une est corrompue, l'autre est parfaitement pure. L'une est l'héritage du premier Adam, l'autre est du dernier Adam, Jésus-Christ. Ils sont en conflit. Alors, il y a les œuvres de la chair. Hein, verset 19 à 21, nous avons lu cela. Il y a les œuvres de la chair qui sont en trois catégories. Les péchés contre soi-même, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'ivrognerie, les excès de table. Donc, les péchés contre son propre corps, contre soi-même, hein, l'ivrognerie, les excès de table, la fornication aussi, hein, qui désigne les rapports sexuels de deux personnes non mariées, mais peut aussi se rapporter à tout comportement sexuel illicite. Et donc, bien sûr, il y a les acceptables, bien sûr, et le fait de ne pas s'enivrer de vin, etc. Hein, est plutôt rempli du Saint-Esprit. Et les péchés contre Dieu, donc les péchés contre soi-même, les péchés contre Dieu, c'est le domaine de la religion, l'adoration des idoles et la magie. Alors, les hommes ont remplacé souvent Dieu par des idoles, ou la magie, se sont tournés vers les puissances des ténèbres. Et on voit par exemple chez les Thessaloniciens, ils étaient vraiment adhérents aux pratiques magiques, etc. Et se sont convertis à Dieu. Hein. Les chrétiens à Thessalonique ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils. Donc, il y a les péchés contre soi-même, les péchés contre Dieu et les péchés contre le prochain évidemment. C'est ce qui manquait, les inimitiés. Les querelles, les jalousies, les disputes, les sectes, l'envie et les choses semblables. Donc, des péchés contre soi, des péchés contre Dieu, des péchés contre les autres. Et il est dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, si nous vivons ces choses-là, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. En tout cas, si on les pratique d'une manière habituelle. Si s'il y a un accro dans notre vie, on peut toujours demander pardon. Mais si on pratique ces choses d'une manière habituelle, quotidienne, il est dit que nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Celui qui commet ces actions n'a aucune part à l'héritage du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu veut trouver en nous la justice, la paix et la joie. Hein, ce n'est pas les acceptables, ce n'est pas toutes ces choses qui plaisent à Dieu, bien entendu. Et de telles œuvres prouvent que nous, si nous pratiquons ces œuvres-là, ça pourrait prouver qu'on n'appartient pas à Jésus-Christ. Si on trouve ces œuvres-là en nous, et qu'on n'est pas uni à Jésus-Christ. Si on est uni à Jésus-Christ, ces œuvres doivent disparaître de nos vies. On doit donc porter du bon fruit. Nous allons voir aussi ce que c'est le bon fruit. Parce qu'il nous a parlé, bien sûr, des œuvres de la chair, c'est une chose, mais aussi le fruit de l'esprit. Pas les fruits, mais le fruit de l'esprit, avec pas mal de caractéristiques. Il y a trois groupes de fruits que Dieu veut que nous portions dans nos vies. D'abord, un trio, hein, qui est dirigé principalement vers Dieu. Hein, trois aspects du fruit, c'est l'amour, la joie et la paix. Vous savez, quand nous avons rencontré Dieu, nous avons été, envahis par l'amour de Dieu. Extraordinaire d'avoir connu, reçu l'amour de Dieu, mais c'est fantastique. Hein. Extraordinaire, hein. Peut-être certains, et certainement pas mal ici, ont connu le coup de foudre. Hein? Mais le coup de foudre, même si on peut faire des bons, ça peut diminuer aussi. Hein? On sait aussi, hein, ça, il peut y avoir les histoires. Mais l'amour de Dieu, c'est fantastique. Dieu nous aime à 100%. Il est possible de garder intact cet amour dans nos cœurs. Il y a des exhortations, hein. On sait bien que la communauté des faits, ça a reconnu le premier amour, c'était extraordinaire. Le Seigneur, c'était fantastique. Une lune de miel, je vais dire, dans la présence de Dieu, dans les premiers mois de la connaissance de Dieu qui se révélait à nous, c'est extraordinaire. Puis il y a toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous écarter progressivement, il y a toutes sortes de choses qui viennent dans nos vies. Et puis, une lettre à Éphèse dans l'Apocalypse nous dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, hein, reviens à ton premier amour ». Ça veut dire aussi que là, il peut y avoir un écart entre nous et Dieu dans l'amour que nous avons pour lui. Et il veut que nous puissions vraiment venir à sa rencontre, être proche de lui pour que cet amour puisse remplir nos cœurs et qu'il puisse de nouveau y avoir un festin d'amour entre nous et le Seigneur. La joie, bien sûr. Quelle joie de venir au Seigneur. Quand nous sommes venus au Seigneur, il y a une joie dans le ciel, les anges qui se sont réjouis devant la face de Dieu. Mais quelle joie Dieu nous a donné de lui appartenir et d'apporter la parole aux autres. Quelle joie. Quelle joie extrême. Troisième chose, la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Celui qui vient à Christ reçoit une paix que le monde peut recevoir. La paix de Dieu, c'est une paix fantastique. Alors, il y a un deuxième groupe, c'est les aspects du fruit qui sont dirigés principalement vers les hommes, la patience, l'amabilité, la bonté, et Dieu produit cela en nous. Ce sont des caractères du fruit d'esprit que Dieu produit en nous, la patience avec les autres. Dieu est tellement patient avec nous, comment est-ce que nous ne pouvons pas avoir un peu de patience avec les autres? C'est la patience de Dieu qui nous a sauvés. Alors, comment est-ce que je ne peux pas patienter avec les autres? L'amabilité, la gentillesse, la douceur, l'amabilité, être aimable, la bonté, je crois que c'est tellement important par rapport à tous ceux qui provoquent, à tous ceux qui persécutent, que nous puissions avoir de la bonté, de l'amabilité par rapport à ces gens-là. Si je suis persécuté par quelqu'un sur la terre, mais montre-lui de la bonté, parce que tu en es capable. L'Esprit Saint te remplit de cette amabilité, cette bonté pour faire du bien à ceux qui te maltraitent. Le troisième trio, c'est caractère du fruit qui sont dirigés principalement vers soi-même. Vers soi-même, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La fidélité, c'est quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui passe par les eaux du baptême et qui promet devant tout le monde qu'il va rester fidèle, qu'il va rester droit, qu'il va obéir jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Quoi qu'il se produise, on va rester fidèle. Dans le couple, c'est très important aussi. Mais par rapport à Dieu, c'est important de rester, de prendre cette décision. Seigneur, je te resterai fidèle, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il se produise. La douceur par rapport à soi aussi, cultiver la douceur, l'esprit doux et tranquille qui sont dans le grand prix devant Dieu. Alors c'est pour les femmes, mais c'est pour les hommes aussi, la douceur, que ta douceur soit connue de tous les hommes, dit l'apôtre Paul, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et la maîtrise de soi, savoir maîtriser ma langue, savoir maîtriser mon corps, savoir maîtriser tout ce qui vient dans mes pensées, savoir maîtriser mon cœur, savoir maîtriser mon temps, ma façon de gérer les choses, l'argent, de savoir gérer ma vie intérieure, de savoir gérer mes frustrations, ce que je fais avec ça. La maîtrise de moi, la maîtrise de ma vie. Alors, la question que nous pouvons nous poser, que devons-nous faire afin de contrôler les désirs de la nature pécheresse et de produire le fruit d'esprit? Que devons-nous faire pour contrôler les désirs de la nature pécheresse? Eh bien, les réponses ont déjà été données. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si cette passion et les désirs qui nous entraînent à aller à gauche et à droite, il y a un problème. Mettons-nous à genoux. Cherchons le Seigneur, parce que ceux qui sont à Jésus-Christ, qui demeurent en Jésus-Christ, qui vivent en lui, qui ont le Seigneur dans leur vie, qui habitent dans la présence de Dieu, qui habitent dans la maison de Dieu, qui vivent avec le Seigneur, qui sont intimes de Dieu, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit, alors c'est très important de savoir que nous avons reçu l'Esprit. Alors, si nous vivons par l'Esprit, nous avons l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, j'ai l'Esprit, qu'est-ce que je fais avec ça? On marche par l'Esprit. On ne marche pas par ta vieille nature avec tes idées d'autrefois. Ne marche pas par tes habitudes. Ne marche pas par tes concepts, tes conceptions des choses, ta mentalité ancienne. Mais marche par ce que l'Esprit te montre au travers de la parole. Laisse-toi renouveler dans ton intelligence par l'Esprit. Premier aspect. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Alors, la question qu'on peut se poser, comment est-ce que je peux être libéré de la puissance de la chair pour que le fruit de l'Esprit soit manifesté au travers de ma vie? Comment puis-je être libéré de la puissance de la chair pour que le fruit de l'Esprit soit manifesté au travers de ma vie? C'est ça qui est important. On reconnaît là qu'on fait qu'il fort. C'est très important ce que je dis. Parce que dire, oui, j'appartiens à Jésus, je connais le Seigneur, je vais dans l'église, je lis la Bible, ok. Ouais, d'accord, ok. Mais ce qui est important, c'est de manifester le fruit de l'Esprit dans ma vie. Si je manifeste le fruit de l'Esprit, je glorifie Dieu. Comment est-ce que je peux libérer vraiment dans la puissance de la chair? Eh bien, nous devons crucifier notre nature pécheresse et laisser l'Esprit diriger notre vie. Nous devons crucifier notre nature pécheresse. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai été crucifié avec Christ, c'est Paul qui le dit aussi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, il y a quelque chose de formidable. C'est oui, il y a trois domaines importants. Je pense qu'il y a trois pistes qu'on peut suivre. La première, c'est que le chrétien doit être impitoyable vis-à-vis de la vieille nature. Impitoyable. Nous devons être impitoyables envers la vieille nature. Impitoyable. Ça veut dire nous ne devons pas tolérer qu'elle subsiste et qu'elle vive. Si nous disons c'est normal, c'est pas grave, lui-même, tel qu'il, que je suis, ça veut dire ben, je ne vais pas changer, voilà, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Et là, il y aura des productions d'une nature, de temps en temps, d'une nouvelle nature. Bien souvent, la vieille nature. De rester comme ça pendant longtemps, il y a des gens qui restent des décennies de la même manière. Ils ne laissent pas la nouvelle nature produire le fruit que Dieu voudrait. Et donc, il y a toujours cette production alternative, vieille nature, un petit peu. Ah, je me rappelle qu'il faut quand même que j'en dise à Dieu. Ah, une nouvelle nature qui se met en marche pendant quelques instants, puis hop, sur la vieille nature. Et c'est toujours comme ça. On ne progresse pas. Il n'y a aucun progrès. Mais Dieu veut qu'il y ait un progrès. Et il n'y a rien à faire, nous devons être impitoyables envers la vieille nature. Et vous savez, dans le monde gréco-romain, la crucifixion, elle n'était pas une forme d'exécution agréable. C'était terrible, la crucifixion. Elle n'était pas infligée à des gens raffinés ou aimables. je m'étais réservé aux criminels. Et par conséquent, si nous devons crucifier notre nature pécheresse, il est clair que celle-ci n'est pas quelque chose de respectable. Notre vieille nature n'est pas respectable. Elle ne mérite que la mort par la crucifixion. Notre vieille nature ne mérite que ça, être crucifié. Il y a la part de Dieu, Jésus a été crucifié avec notre vieille nature, mais il y a notre part aussi. Nous devons aussi crucifier notre vieille nature. Il y a la part de Dieu, il y a la nôtre. C'est trop facile de dire, oui, que Christ a déjà tout fait, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça marche pas dans la vie. Non, non, non. Il y a moi aussi, je dois crucifier cette vieille nature. Dieu a tout accompli, il a été crucifié avec ma vieille nature, mais moi, j'ai une responsabilité aussi. Parce que j'ai l'esprit maintenant. Je ne peux pas dire, oh ben, je suis des fois captif de la loi du péché. Non, ça ne marche pas. Ça. Deuxième chose, c'est que le rejet de l'ancienne nature par la crucifixion sera douloureux. Si je veux obéir à Dieu, je dois m'armer de la pensée de souffrir. Si je ne m'arme pas par rapport à la pensée de souffrir, je n'accepterai pas d'être crucifié. Parce que être crucifié fait mal, ça fait souffrir. Quand on obéit à Dieu, on souffre. Si on vit selon la chair, on ne souffre pas. Tranquille, c'est la vieille nature qui prend ses droits. C'est ça. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. Et il y en a beaucoup qui n'acceptent pas l'idée de souffrir en faisant mourir la vieille nature. C'est pas possible. Et Hébreux 11:25, on parle de Moïse qui a préféré s'associer aux souffrances du peuple hébreu plutôt que de jouir du péché de son statut de prince d'Égypte, où il aurait pu librement avoir une vie facile. Il a préféré être rejeté avec le peuple hébreu et de connaître son sort. Enfin, il y avait quelque chose de magnifique derrière ça. Dieu voulait sauver au travers de Moïse aussi le peuple, etc. Il y a quelque chose de, des promesses extraordinaires, mais la honte de ce peuple, il va la revêtir, il va la prendre. Comme Jésus, quand il vient sur la terre, il prend la honte de nos fautes en mourant à la croix. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il y a une malédiction, il va prendre la honte sur lui, l'opprobre. Le troisième point, c'est que le rejet de notre ancienne nature doit être net. La mort par crucifixion est une mort lente, mais certaine. C'est une mort lente, la crucifixion. Certains mouraient en 36 heures. Donc pendant 36 heures, ils avaient le temps de souffrir longtemps. Et notre vieille nature, si nous voulons la faire mourir, ne vous en faites pas, elle va pas se laisser faire comme ça. Elle se laisse pas faire. Et si on n'appuie pas sur la gâchette, si on n'appuie pas sur le fait de continuellement la faire mourir, elle va surnager, d'accord? On va essayer d'appuyer, mais elle va revenir. Et donc, pour nous, il est important d'insister. Parce que c'est une mort lente, mais certaine. Et John Brown souligne la signification de ce fait. La crucifixion entraînait la mort de façon subite, mais de manière graduelle. Donc, il y a une gradation. La mort vient, mais pas directe. Le vrai chrétien ne parvient pas à détruire totalement la nature pécheresse ici-bas, mais il la cloué à la croix et il est décidé à lui maintenir jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça, en fait. Le vrai chrétien ne parvient pas à détruire totalement la nature pécheresse ici-bas, mais il l'a cloué à la croix et il est décidé à lui maintenir jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça c'est important. Parce que réaliser dimanche matin, oh, on a fait une prédication là-dessus, c'est bien, il faut vivre. Si je ne vis pas cette chose, réellement, je ne meurs pas à la vieille nature, je ne vais pas, je vais si je ne mets pas tout ce que je possède en exécution pour faire mourir cette vieille nature, elle va revivre. C'est elle qui va encore me tromper et me jouer des tours. Nous devons être décidés à maintenir la mort de cette vieille nature, cette crucifixion de cette vieille nature, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Jésus a dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à nous-mêmes. À lui-même. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes. Je crois que c'est très important, renoncer à soi-même. Ça a un impact seulement, pas seulement dimanche, un impact tous les jours de la semaine, à chaque moment de notre vie. Renoncer à soi-même, se charger de la croix et suivre le Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, dit Paul, marchons aussi par l'Esprit. Et deux choses sont importantes. C'est que nous devons être conduits par l'Esprit. Et que nous devons laisser l'Esprit diriger notre conduite. Diriger, c'est par exemple un fermier qui dirige du bétail, un berger qui conduit un troupeau, des soldats qui escortent un prisonnier au tribunal ou en prison. C'est par exemple le vent qui fait naviguer un bateau. Devons nous laisser conduire par l'Esprit. Et je crois que c'est tellement important. Ce n'est pas simplement un vent qui vient nous frotter, un petit frisson, et je me sens bien, j'y sentis bien. Mais c'est l'Esprit qui dirige notre vie, qui nous donne les indications que nous devons suivre, devons obéir. Et je crois que c'est tellement important de réaliser que le Saint-Esprit veut être notre conducteur, notre locomotive, vraiment nous donner la direction. Et bien sûr, l'Esprit-Saint va créer en nous des désirs spirituellement purs, bien entendu. Et le Saint-Esprit n'exerce pas une pression forte, mais douce. Le Saint-Esprit nous conduit par la douceur, hein, par ta douceur, tu dis si de même en cœur. La douceur du Saint-Esprit, je crois que c'est toujours c'est jamais une pression forte avec Dieu, parce que la preuve c'est qu'on peut y résister et ne pas obéir. Hein. Beaucoup de chrétiens n'obéissent pas forcément au Saint-Esprit. Et donc, parce que la voix de Dieu est une voix douce. Une voix douce, et il faut recevoir cette voix et puis nous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit prenne les rênes de notre vie et qu'il ait toute l'attitude pour nous conduire, toute l'attitude pour nous inspirer et nous éclairer. Voilà. Alors, Dieu veut que vraiment nous puissions marcher par l'Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. On va prier. Venez bien. Seigneur Père, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons réaliser, Seigneur, que nous avons à crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Toi, tu l'as fait sur la croix, mais nous devons aussi crucifier cette vieille nature avec ses désirs, ses passions. Et nous voulons réaliser que c'est pas facile et ça fait souffrir, mais nous voulons être persévérants et crucifier, Seigneur, cette vieille nature, pour laisser la nouvelle agir par ton Esprit Saint et nous conduire. Seigneur, merci Jésus. Tu vois que beaucoup n'ont pas compris cette parole. Aide-nous à la comprendre, à la saisir. Aide-nous surtout à la vivre. Que ce ne soit pas simplement quelque chose de mis dans notre intelligence. et des choses belles mais inatteignables quasiment, mais que ce soit vraiment une réalité vécue au travers de notre foi. Merci parce que nous vivons sous la grâce et ton esprit nous est donné pour vaincre le péché. Merci Seigneur. Nous voulons nous dépouiller de ce vieux manteau de la vieille nature et nous revêtir de cette nouvelle nature créée selon Dieu pour porter du fruit dont nous n'aurons pas à rougir, du fruit qui glorifiera ton nom, des fruits de sainteté, des fruits qui élèvent la majesté de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu veux nous apprendre à porter du fruit, le fruit de cette nouvelle nature. Merci de nous aider, Seigneur, aujourd'hui. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi, comme l'apôtre Paul, dans le chapitre 7, réalisait que cette vieille nature, je sais tout ce qui est bien, je sais bien, mais j'arrive pas. Alors, Seigneur, nous voulons réaliser que tu nous as donné, Seigneur, toutes choses. Nous voulons réaliser que tu es mort avec cette vieille nature. Nous voulons nous considérer comme étant morts avec toi sur la croix, cette vieille nature en tout cas. Et nous voulons vraiment continuer à crucifier dans notre vie quotidienne la chair avec ses désirs et ses passions et te laisser la première place à l'esprit. Sois le guide, sois celui qui prend les rênes. Sois celui qui nous délivre, sois celui qui nous conduit dans l'obéissance. Merci Seigneur, parce que tu as un bon plan pour nous, tu as un bon plan pour chacun ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien Seigneur, tu travailles nos cœurs. Merci parce que tu agis Père, par ta puissance. Merci Seigneur, parce que nous décidons aujourd'hui de vivre selon l'Esprit, selon notre nouvelle nature et non pas selon les désirs de la chair. Merci Seigneur, et c'est notre bonheur qui en dépend. L'entrée dans le royaume des cieux qui en dépend. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous pouvons remercier le Seigneur de nous.